Chers amis, nous ouvrons notre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10. Un texte qui m'a été rappelé cette nuit. Alors je me suis levé pour le relire, parce qu'il colle tellement remarquablement avec ce que nous allons partager, Ecclésiaste 10. Les quatre premiers versets, et j'attire votre attention sur le verset premier, Ecclésiaste 10, verset 1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Il n'y a pas là d'allusion politique puisque notre cœur à tous est légèrement dirigé vers la gauche, n'est-ce pas? Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Cantique des Cantiques, juste après. Au chapitre 2, nous ne relisons pas la totalité du texte lu en introduction hier matin, mais qui est si beau, mais j'en rappelle le verset 15, après les mouches viennent les renards. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Plus loin, au chapitre 5, les versets 2 à 8. Verset 2, j'étais endormi. C'est la Sulamite qui parle. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Dans le Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Au verset 21 et suivant, 21-26, Matthieu 5, 21-26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, tu n'assassineras point. Celui qui tuera, qui assassinera, est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère imbécile, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier centime. Et puis enfin, dans Éphésiens chapitre 4, qui précède donc un enseignement stratégique sur le mariage et la vie conjugale, Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou sur votre irritation. Nous avons, dans le cadre de la vie dans la lumière et la marche dans la lumière, tout d'abord dans la vie du couple et bien sûr au-delà ensuite, évoqué l'importance de ne pas dresser des murs dans notre relation de couple. Et nous avons, hier matin, considéré le gros renard qui doit d'abord être débusqué et chassé de nos vies conjugales, à savoir ces mauvaises conceptions, que ce soit par ignorance, que ce soit par désobéissance, que nous entretenons sur l'autorité dans le couple, aussi bien que sur la soumission. L'ennemi de nos cœurs fait tout pour caricaturer dans nos vies ces deux dimensions importantes que sont celles de l'autorité et de la soumission. Et donc nous avons travaillé dans ce domaine à faire sauter des idées fausses, des idées reçues, des préjugés, des idées préconçues, qui nous permettent maintenant d'aller vers les mouches qui sont un problème pour le parfum, non seulement pour les dames, mais pour les messieurs aussi, et bien entendu aussi les petits renards. Les petits renards. Je pense à ce couple qui éprouvait des difficultés dans leur vie conjugale et qui demande conseil à un serviteur de Dieu. Et puis il discute longuement avec eux, il les écoute très longuement. Et puis il se rend compte que l'entretien ne progresse pas, que ces deux personne reste mordicus, chacune, sur sa position. Et puis il remarque un chat et un chien qui sont là, couchés, côte à côte, devant le foyer, dans la pièce où a lieu l'entretien. Et avisant les deux partenaires, il leur dit, mais regardez donc ce chien et ce chat comme ils sont paisibles. Et pourtant, ils ne s'entendent certainement pas à merveille sur tout. Et le mari, alors, de se tourner vers le serviteur et de lui dire, oui, mais liez-les ensemble et vous verrez ce qui se produira. Et je veux simplement, au travers de cette petite histoire, souligner que si le mariage peut être une relation riche en bénédictions, il peut être aussi une relation riche en malheurs. Parce que des arrière-plans différents, des personnalités très contrastées, des goûts différents, des habitudes irritantes peuvent rapidement transformer les rêves les plus chers en cauchemars absolument épouvantables. Et le problème est liée en réalité à l'intimité, à cette intimité toute spéciale entre le mari et la femme, qui rend tellement vulnérable le couple par rapport notamment au problème d'incompatibilité. On tolère toutes sortes de différences, on s'en amuse même dans le cadre de relations amicales. Mais quand on dépasse le cadre de relations amicales pour entrer dans celui des relations conjugales et même des relations ecclésiales, alors ce qui est amusant, ce qui est tolérable, peut devenir source d'irritation, un mur pratiquement insurmontable dans les liens du mariage. Et c'est pour cela que j'aimerais dire en premier lieu que pour régler les conflits, il importe tout d'abord de ne jamais laisser traîner les problèmes. De ne jamais laisser traîner les problèmes. Vous avez remarqué dans Matthieu 5, 25, ce petit mot tellement important, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Promptement. Fais vite. Nous aurions pu illustrer cela par un chapitre de l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'une femme de bon sens que j'aime appeler, quand je donne un séminaire sur cette femme, Madame TGV. Je ne sais pas si vous connaissez Madame TGV dans l'Ancien Testament, train à grande vitesse. Madame TGV, c'est Madame Abigail, qui avait un mari complètement insensé, et il y aurait beaucoup d'enseignements à tirer d'un Samuel 25 sur le comportement d'une épouse pleine de bon sens qui vit aux côtés d'un mari complètement fou. Il vaut la peine de creuser. Vous y verrez des richesses pratiques absolument extraordinaires quant à la maîtrise de la langue chez cette femme de bon sens, qui sait observer et vivre des choses tellement douloureuses en se taisant. J'indiquais dans un entretien hier l'histoire de cette dame qui venait voir un serviteur de Dieu pour se plaindre de son mari assez régulièrement, et il y avait de quoi être malheureux, un mari qui s'enivrait fréquemment, qui avait un comportement vraiment très excessif, douloureux pour elle. Et pourtant un jour, après un nouvel entretien sur la question, le serviteur de Dieu dira à cette dame, écoutez, j'ai simplement une suggestion à vous faire. Vous allez sortir d'ici, et vous allez aller au bord de la rivière. Vous savez, la rivière qui passe là, à proximité de notre village. Et vous allez regarder dans le lit du ruisseau, sur ses bords, vous allez chercher une pierre. Une pierre. Oui, vous allez chercher une pierre, de préférence un petit galet, bien plat, bien lisse. Bon. Vous allez le ramasser, oui, et vous allez le mettre dans votre poche. Vous allez rentrer à la maison. Oui, bien, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, quand vous allez voir l'état de votre mari, quand vous allez entendre votre mari, vous allez vite sortir le galet de votre poche et le poser bien à plat sur votre langue. Et vous reviendrez me voir dans 15 jours. Et 15 jours plus tard, cette femme est revenue. Et elle a dit à ce serviteur de Dieu, vous savez, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai fait cette expérience. Ça, c'est Abigail. Mais ce que je veux souligner essentiellement au début de cette étude, c'est qu'à 4 reprises, dans 1 Samuel 25, Abigail, en femme de bon sens, se rendant compte que sa vie, la vie de son mari, la vie de toute sa maisonnée, de ses enfants, des serviteurs, de toute sa propriété est en danger. Et que d'ici la lumière du prochain matin, il ne restera plus âme qui vive dans sa propriété si elle ne fait pas vite une démarche. Et à quatre reprises, dans le texte figure ce petit mot « vite, 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 vite ». Pourquoi faire vite ? Tout d'abord parce que très souvent dans nos vies de couple, d'ailleurs comme dans nos vies d'église, les problèmes démarrent très petitement. Ce sont des petites choses qui s'ajoutent à des petites choses et qui s'ajoutent encore à des petites choses. Et ce sont donc des petites souris qui, un jour, accouchent d'une montagne. J'en veux pour preuve cette histoire tout à fait authentique qui s'est passée en Angleterre où un couple avait vécu ensemble comme partenaires silencieux pendant 12 ans. Et finalement, la femme a demandé le divorce et l'avocat qui s'occupait de cette situation d'expliquer pendant 12 ans, ce couple avait vécu de manière à ne pas avoir à se rencontrer. Quand l'un entrait dans la maison, l'autre en sortait. Et lorsqu'ils communiquaient l'un avec l'autre, c'était par des notes. L'avocat ajoute, ils avaient vécu heureux ensemble pendant les 18 premières années de leur mariage. Ils avaient élevé un fils. Et au cours des 12 dernières années, toutefois, ils ne s'étaient jamais parlé. Mais la conclusion de cet avocat est intéressante. Parce qu'il souligne que, ironiquement, ni l'un ni l'autre ne pouvaient se rappeler pourquoi ils s'étaient chicanés. Et c'est si souvent le cas. On en arrive à des situations absolument inextricables. Parce que la situation, peu à peu, s'est dégradée et est devenue de plus en plus douloureuse. Et vous savez généralement que le petit problème, le petit accro, engendre avec sa blessure un nouveau type de regard dans les relations, un nouveau type d'écoute dans les relations. Vous n'écoutez pas et vous ne voyez pas de la même manière qu'avant le conjoint ou la personne qui vous a fait de la peine et qui n'a pas réglé le problème. Petit à petit, vous suspectez tout ce qu'elle vous dit, vous l'interprétez, vous le déformez, vous le comprenez autrement. Vous soupçonnez le mal là où le mal n'est pas. C'est fou ce que notre regard et ce que notre écoute se modifient lorsqu'on ne règle pas les problèmes tout de suite. Soupçon, interprétation, déformation des faits et des gestes, médisance, rancune, haine, propos regrettables. Combien c'est douloureux, n'est-ce pas, quand on se rend compte dans cette escalade du problème petit au départ qu'on en vient à des propos souvent tellement malheureux, à des propos durs, injurieux parfois, qui vont laisser des traces. J'ai là une anecdote intéressante que j'ai recueillie tout récemment. C'est un des commerciaux d'une agence qui arrive au bureau avec 2 heures de retard. Et tout penaud, il explique que la veille, il s'était disputé avec sa femme et qu'à un moment donné, il lui avait crié dans sa colère « Si tu n'es pas capable d'être aimable, ce n'est même pas la peine de m'adresser la parole. » Et après cela, il avait passé la nuit sur le canapé et lorsqu'il s'était réveillé le lendemain matin, il faisait jour depuis bien longtemps, il n'y avait pas un bruit dans la maison. Et quand il s'est levé, il a vu un mot de sa femme. Elle était partie travailler et avant de partir, elle lui avait laissé ce mot sur la table. Brian, son prénom, c'est l'heure de te lever. Puisqu'il ne devait pas lui adresser, elle ne devait plus lui adresser la parole, elle lui a joué un tour, n'est-ce pas? C'est gentil, ça. Mais vous savez que c'est, hélas, parfois bien pire. On pourrait évoquer toutes les souffrances au niveau de l'entourage. Est-ce que nous pensons aux répercussions de ces conflits non réglés qui s'aggravent au niveau de nos enfants? Comment peu à peu, en vagues concentriques de plus en plus larges, ces désordres qui nous secouent touchent peu à peu des cercles de plus en plus élargis. Et puis il y a le problème de l'hypocrisie. Parce que toutes les personnes ne sont pas comme cet homme qui arrive au boulot et qui dit « Je me suis disputé avec ma femme ». Surtout pas quand on est membre de l'église de Jésus-Christ et d'une église locale que l'on fréquente régulièrement. Parce qu'on est tenté de dire « Surtout les autres ne doivent pas savoir ». Si un tel dans l'église apprenait que, qu'est-ce qu'il irait penser? Alors ça peut donner des histoires de ce genre, et là je vais emboîter le pas à monsieur de la Bruyère, avec ses caractères qui sont pour certains d'entre eux passionnants. Et je vais m'imaginer un couple qui est en train de se disputer. Le ton monte. Peu à peu, on échange des mots qui ne sont pas très doux. Éventuellement même, des objets se mettent à traverser la pièce. Et quand la fureur dans les échanges est à son paroxysme, voilà qu'on sonne à la porte. Alors, madame va très rapidement vers le petit Judas, n'est-ce pas, d'où l'on peut voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur. Et elle frémit d'épouvante. Elle se tourne vers son mari et elle essaye de lui faire savoir qu'il s'agit de chers amis de l'église locale. Alors dans ces moments-là, on bat tous les records du monde de vitesse et d'efficacité. Elle va dans son petit boudoir se refaire une beauté parce que bien entendu, j'imagine le désordre au niveau cosmétique. Quant à lui, il a quelques mèches de cheveux à redresser, une cravate aussi à remettre en ordre, etc. Et tous les deux, c'est du La Bruyère, tous les deux, comme au plus beau jour de leur fiançailles, de se prendre par le joli petit doigt de la main, ils vont ouvrir la porte, et avec un sourire de circonstance digne de figurer sur les plus belles publicités, ils accueillent les amis de l'église. Mais quel plaisir de vous voir! Prenez donc la peine d'entrer. Et on les accompagne dans ce salon, toujours en se tenant par le petit doigt long là. Et on les installe sur la banquette. On se réserve les deux fauteuils de part et d'autre pour qu'il y ait des passages par avion de temps à autre. Puis on sert le thé ou le café, les petits gâteaux. puis on parle de tout et de rien, du temps, de la santé, des enfants, mais aussi de l'église locale, de l'enseignement donné le dimanche précédent ou de la bonne réunion de prière de la semaine. Et puis bien entendu, on ne concevrait pas un tel moment sans que qu'on prie. Alors on prie ensemble. Et puis l'heure est venue de se quitter, alors toujours en se donnant le petit doigt selon la Bruyère, on se raccompagne, la porte se referme, et deux pièces de théâtre extraordinaires ont lieu simultanément, l'une au dehors, l'autre au dedans. Dehors, Madame s'adresse à Monsieur. Chérie.
Oui.
Chérie, j'ai quelque chose à te dire.
Oui, quoi?
Chérie, est-ce que tu as vu?
Qu'est-ce que j'ai vu?
Tu n'as pas vu comment ils se conduisaient tous les deux?
Eh ben quoi?
Mais en fait, tu n'as pas vu qu'ils se donnaient le petit doigt? Dis, ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas donné le petit doigt? Et pendant ce temps, à l'intérieur, la querelle de ménage a repris de plus belle. Mes amis, nous savons qu'il est des terrains glissants qui mènent à l'hypocrisie. Donc, puisque nous le savons, je vous suggère que nous essayons d'éviter de nous installer sur ces terrains glissants. Donc que nous apprenions, vous et moi, à régler nos problèmes le plus vite possible, pour ne pas être tentés de nous installer dans la peau d'un personnage qui ne correspond pas à ce que nous sommes en réalité. Alors, nous parlerons partage d'ici demain. Et bien entendu, nous dirons que partage n'est pas naturisme, nudisme, que tout ne se dit pas. Mais c'est vrai que le problème, c'est que face à l'extérieur et face à l'Église en particulier, nous sommes tellement tentés de ne pas dire la vérité concernant nos situations personnelles. Et à cause de cela, nous nous installons en porte-à-faux dans une hypocrisie tendue qui n'honore pas le Seigneur et qui ne nous aide de toute manière pas à résoudre nos problèmes. Parce que chacun sait pertinemment que l'autre est hypocrite. Et nous avons toujours tendance à voir l'hypocrisie de l'autre au moment même où nous sommes nous-mêmes hypocrites. Oh, je pense au dimanche matin. Ah, le dimanche matin. Vous savez comment j'appelais, maintenant encore, mais pas de la même manière, mais autrefois, quand nos enfants étaient petits, j'appelais le dimanche matin, peau de banane. Vous vous demandez ce que c'est? Ben, le dimanche matin, peau de banane, c'est ce moment à partir du lever où il faut se préparer à partir au culte et où curieusement, tout marche à l'envers. On a eu beau préparer la veille le maximum pour que tout se passe bien le dimanche matin, c'est curieux. C'est le dimanche matin que le lait va déborder. Pendant que le téléphone sonne, pendant qu'un des enfants réclame une chaussette parce qu'il en a perdu la moitié, tout va de travers. Et plus on a d'enfants, plus les problèmes se multiplient. Et ces dimanches matins peuvent être des moments redoutés, parce que redoutables. Alors il arrive un moment où quand on s'est bien chamaillé, disputé, quand on s'est envoyé quelques petits mots doux, l'heure est arrivée d'entrer dans la voiture. Alors on s'engouffre dans la voiture, parfois d'ailleurs le problème continue à grandir parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en retard, et on sait toujours qui est en retard. Et puis, pendant que la voiture va vers le lieu de réunion, les enfants qui sont assis à l'arrière, ils commencent à se frotter les yeux. Et s'ils ne croyaient pas au miracle jusque-là, ils sont obligés de croire au miracle. Parce parce que subitement, ils ont une espèce d'illusion d'optique. Phénomène absolument miraculeux, ils voient des ailes qui poussent dans le dos des parents à hauteur des omoplates. Ces parents qui étaient sur les dents, qui les ont envoyés balader, il y a quelques instants à peine auparavant, sont en train de se métamorphoser sous leurs yeux. Ils sont plus doux. Pourtant, rien n'a été réglé. Et au fur et à mesure qu'on approche du lieu de culte, le miracle prend des proportions absolument extraordinaires. Et alors, quand on est dans la dernière rue, celle où toutes les voitures se retrouvent ensemble pour aller au parking, alors, vous savez, c'est le ciel sur la terre et les enfants voudraient que ce soit toujours comme ça. Puis on va entrer, on va saluer, tout va bien. On va vivre un culte comme ça. Mais est-ce que les enfants ne sont pas fous? Et il arrive un moment où les enfants disent, mais c'est quand même bizarre ça. On n'a rien réglé, ils sont conduits comme des anges. Papa, il a même prié. Et il a fait ses prières champions. Hein. Oui, mais en attendant, ce matin, qu'est-ce que j'ai pris? D'où l'importance, encore une fois, de régler les problèmes aussitôt. Qu'il y ait des situations de tension, c'est sûr. Mais notre problème, c'est que nous ne réglons pas les problèmes tout de suite. Alors bien sûr, là encore, le dimanche, on s'installe dans des situations qui passent pendant un certain temps, et puis un jour, ça reste en travers de l'un ou de l'autre, et des enfants en particulier, parce qu'ils commencent à saisir de plus près les incohérences de notre témoignage. Et puis faut-il le dire? Je ne sais pas quelle est votre conviction, mais j'attends le Seigneur. J'attends son retour. Je suis de ceux qui croient que l'Église peut être enlevée à tout moment. Et que de toute manière, je peux être rappelé auprès du Seigneur à tout moment. Et ce que j'aimerais dire simplement, c'est que il vaut mieux que nous ne soyons pas surpris par la mort ou le retour de Christ sans avoir réglé nos problèmes. Vivons aussi dans une perspective d'éternité. Comme si cette journée devait être la dernière de notre vie. Parce qu'elle peut effectivement être la dernière de ma vie. Combien il serait regrettable que nous retrouvions notre Seigneur et Sauveur sans avoir réglé les problèmes qui peuvent exister entre nous au sein du couple. Souvenons-nous que le temps, je l'ai dit l'an dernier, le temps ne règle rien. Le temps n'efface pas nos péchés. Nous sommes tellement tentés, à cause de l'usure des aspérités de nos problèmes et de notre péché, et de l'usure de notre mémoire, nous sommes tellement tentés de penser qu'avec le temps, ben, puisque les problèmes finalement, peu à peu semble s'user, prendre un contour plus flou, nous sommes tentés de penser qu'il se règle de cette manière. Et que le temps a cette capacité de régler, finalement, nos problèmes et d'effacer nos fautes. Et nous savons pourtant qu'au regard de notre Dieu qui vit en dehors du temps, les fautes commises il y a 10 ans, et qui n'ont pas été réglées, sont encore aussi présentes dans la pensée de Dieu que si elles venaient d'être commises à cet instant. Cela veut dire donc demander pardon au plus vite, par exemple. Et c'est là, entre autres, que le gros renard dont nous nous sommes entretenus hier joue un rôle, parce que c'est si facile, au nom de l'autorité masculine, c'est si facile de dire « c'est pas moi qui vais céder ». Et vous savez combien il y a de mécanismes de résistance en nous, que nous soyons hommes ou femmes, pour dire « je ne céderai pas ». J'en ai assez. C'est toujours moi qui fais le premier pas. Qu'est-ce qu'il est orgueilleux. Vous savez combien, surtout plus le temps passe, nous développons des raisonnements de ce genre. Je suis plus âgé que lui. C'est lui qui a commencé. Hein? Et je dis, très souvent, et le Seigneur me le dit, c'est toujours le plus intelligent qui fait le premier pas vers l'autre. C'est toujours le plus sage spirituellement qui fait le premier pas vers l'autre. Celui qui a le plus de bon sens spirituel fait le premier pas vers l'autre. Et ici, nous nous heurtons à un certain nombre de problèmes. Notamment les problèmes qui concernent le monde de nos sentiments. De ces sentiments, de cette émotivité, de cette affectivité qui a été parfois bouleversée, choquée, remuée, blessée. Et qui fait que nous ne nous sentons pas disposés à aller vers l'autre. Et que donc nous sommes tentés simplement de dire « mais mes sentiments ne marchent pas dans ce sens ». Donc, je ne peux pas. À quoi servirait-il que j'aille vers l'autre, puisque mes sentiments vont en sens contraire? Est-ce que ce ne serait pas, d'ailleurs, de l'hypocrisie? Et là, nous retrouvons notre première étude de vendredi dernier sur le contenu de l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il faut souligner ici que l'amour véritable est d'abord simplement un acte qui traduit notre volonté d'aimer. C'est un acte. Le problème, c'est que trop souvent, nous diminuons cette définition de l'amour au point d'en faire simplement quelque chose de sentimental. Là où dans les Écritures, nous avons le commandement d'aimer. Ceci nous a été rappelé dans le résumé sur le livre « Les uns et les autres ». Ce sont des impératifs. Or, les impératifs, les commandements de Dieu, et vous avez plus de 1000 verbes à l'impératif dans les épîtres de Paul, hein? Eh bien, les impératifs ne s'adressent pas à nos sentiments. Essayez donc de vous adresser à vos sentiments par des impératifs. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose? Vous pouvez y aller toute la journée, et vous aurez une tête comme ça ce soir, et ça n'aura rien changé du tout. L'amour véritable se situe au niveau de la pensée, au niveau de la volonté. Et si je ne peux commander à mes sentiments de changer, je peux engager ma volonté en direction d'actes qui vont changer mes sentiments. Et en fait, quand je vais vers l'autre, j'y vais parce que je veux me tenir sur le terrain de l'obéissance de l'amour. Parce qu'un véritable amour, le Seigneur le dit si bien, première épître de Jean, déjà l'évangile selon Jean, aimer, c'est obéir. Et quand je vais vers l'autre, quels que soient mes sentiments, j'y vais pour honorer le Seigneur en disant, Seigneur, je ne veux pas rester sur le terrain des ténèbres.
Je veux me situer sur ton terrain, à toi, sur le terrain de l'amour. Je veux t'obéir, je veux être dans le bon camp. Tu me demandes d'aimer. Et tu me demandes d'aimer sans m'intéresser d'abord à mes sentiments. Le pardon n'est pas une affaire de sentiments. C'est un acte de volonté. Et je dirais que la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. Je pense à cette femme de Dieu qui a beaucoup marqué le peuple de Dieu. Et je dirais dans bien des pays du monde, et qui est auprès du Seigneur depuis quelques années, Corrie ten Boom, qui, après avoir vécu des années de souffrance atroce, dans cet enfer de Ravensbrück, voyant sa sœur Betsy mourir dans un état de faiblesse extrême à ses côtés, dans ce camp, libérée au niveau humain par erreur, par une erreur des hommes, mais qui était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu avait un mandat pour elle, une vocation pour elle. Celle de faire de Corrie une ambassadrice de sa grâce et de son pardon. Je dirais dans le monde entier, à commencer par le pays dans lequel elle avait souffert. Et c'est ainsi que, dès 1946, Corrie a commencé à parcourir l'Allemagne de long en large, s'adressant à des auditoires importants, auxquels cette rescapée de Ravensbrück racontait l'amour de Dieu et proclamait la richesse de son pardon, la générosité de son cœur, celui qui jette nos péchés au fond de la mer, n'est-ce pas? Et puis un soir, alors qu'elle venait de chanter cet hymne à la grâce de Dieu qui pardonne, message tellement nécessaire dans cette Allemagne traumatisée, qui se sentait si coupable, qui découvrait l'horreur de ce qui s'était passé dans les années précédentes, ce soir-là, alors que la foule s'éloigne dans le silence, Corrie voit venir vers elle un homme qu'elle reconnaît immédiatement. Sous son chapeau, son manteau, elle voit quelqu'un d'autre. Elle voit un de ses anciens gardiens de Ravensbrück, avec son fouet au côté, devant lequel elle a défilé avec sa sœur toute nue. Et elle le voit s'avancer vers elle. Et elle est glacée d'effroi, de terreur. Tout son passé remonte, toute sa souffrance, une série de clichés passe dans sa tête. Et elle se met à feuilleter fébrilement son agenda. Lorsque cet homme s'arrête en face d'elle, elle lui dit combien il a apprécié le message qu'elle vient de donner. Elle lui dit qu'il a été, il reconnaît qu'il a été lui-même, un de ces tortionnaires de Ravensbrück, et que Christ l'a rencontré, qu'il s'est tourné vers lui, qu'il a obtenu le pardon de Dieu, mais qu'en obtenant le pardon de Dieu à la croix, il a demandé à Dieu de lui permettre de rencontrer quelqu'un qui a été au camp pendant qu'il y était, mais de l'autre côté, pour qu'il puisse demander pardon. Et tendant la main à Corrie, cet homme de dire, écoutez, je vous demande pardon, est-ce que vous voulez bien me pardonner? Et pendant un laps de temps qui a été très court, mais extrêmement long, dans l'esprit de Corrie, relativisme du temps, hein, suivant les circonstances, cette femme de dire, mais comment est-ce que je pourrais, comment est-ce que je peux? Seigneur, tu connais les sentiments qui sont en moi en ce moment, toutes ces blessures. Et puis à ce moment-là, Dieu lui a rappelé, mais Corrie, pardonner c'est pas ça, aimer c'est pas ça. Ne t'occupe pas de tes sentiments. parce que je te donne la force. En moi est le vouloir et le faire. Tu as la capacité. Et Corrie de dire, eh bien Seigneur, tant pis, je vais tendre mon bras comme une poupée mécanique. Hein? Tu sais ce qui se passe dans mon cœur. Mais je veux aimer. Et elle a tendu ce bras raide et cette main raide. Et elle raconte comment, au moment où dans son cœur, elle faisait l'acte de pardonner par volonté, indépendamment des sentiments, qui allaient totalement dans une autre direction, le Seigneur a rempli son cœur d'un amour profond pour cet homme, au point qu'elle s'est mise à pleurer. Et qu'ils ont vécu une étreinte de la main prolongée dans un authentique amour entre enfants de Dieu. Cela signifie, pratiquement, pour nous aider pratiquement, qu'aimer, c'est peut-être d'abord dans une situation conflictuelle à l'intérieur d'un couple, au-delà de nos relations avec nos enfants, puis dans l'église locale. Cela signifie peut-être que je demande d'abord à Dieu de bénir mon conjoint. Seigneur, bénis-le. Fais-lui du bien. J'oriente mes pensées dans le sens de la bénédiction. Parce que jusqu'à présent, c'était la malédiction. J'ai dit du mal. J'ai mal dit. J'ai maudit. Et j'ai médit. Maintenant, je bénis. Et Dieu veut que nous soyons des bénisseurs, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, je fais l'acte d'aller vers lui. Ce qui m'a personnellement aidé plus d'une fois dans nos relations conjugales, ça a été de réfléchir devant Dieu à ce qui pouvait faire plaisir à Tina, à mon épouse. Tensha, vous avez vu un bel arc-en-ciel, le prénom polonais de mon épouse, qui est d'origine polonaise, c'est Tensha. Et Tensha veut dire arc-en-ciel. Alors j'étais très heureux hier soir. J'ai une épouse qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Eh bien, ce qui m'aide, c'est de dire, mais qu'est-ce qui pourrait être acte concret d'amour pour qu'il y ait vraiment un pardon qui s'installe et une réconciliation qui s'opère. Et combien de fois c'est un petit cadeau qui a concrétisé le signe de ma volonté d'aimer. Et simplement déjà le fait de penser à ce qui pouvait lui faire plaisir, ensuite d'aller l'acheter. Déjà tout ce cheminement d'actes successifs positifs a commencé à orienter ma pensée différemment. Je pense à ce fleuriste qui avait devant lui deux gamins et leur papa. Et l'un des deux garçons désigne du doigt un petit bouquet à la vendeuse qui, avant de l'emballer, demande s'il s'agit d'un événement spécial et s'ils ont donc besoin d'une carte et d'un emballage particulier. Et après une seconde d'hésitation, le père répond « Non, ce n'est pas nécessaire ». Et voilà que l'autre garçon dit « Mais si, papa, tu sais bien, c'est un événement spécial !» Et alors, sans attendre la réaction du papa, le garçon se tourne vers le vendeur et lui explique « Vous savez, c'est parce que maman est vraiment très fâchée contre nous. » Très fâchée. Vous savez, c'est dans les Écritures. Exode 23, versets 4 à 5. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, hein, ça veut dire qu'il y a un combat quelque part. Hein. Au niveau des sentiments, il y a peut-être une antipathie, des souvenirs à cause d'une mauvaise relation. Si tu hésites, que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » tu ne vas pas t'arrêter à tes hésitations, à ce que tu ressens intérieurement. C'est la démarche, c'est l'acte précis, le changement de comportement qui vont amener dans le temps de Dieu, et c'est l'affaire de Dieu, le changement de sentiment. Mais là se produit un autre problème. Et nous essayons d'évacuer les problèmes majeurs et successifs au fur et à mesure qu'ils se présentent dans ce règlement des conflits. C'est que, c'est vrai, j'ai demandé pardon ou j'ai pardonné. Mais il y a toujours le problème de mes pensées. Et c'est là d'ailleurs ce qui fait la différence entre le pardon et la réconciliation. Que généralement, par méconnaissance des Écritures, nous confondons. Là où le pardon est acte juridique, qui s'appuie sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la réconciliation est un des effets. Le pardon est acte instantané, la réconciliation est une conséquence qui prend du temps. C'est-à-dire que la réconciliation se situe au niveau de nos relations. Et notre relation doit se reconstruire sur la base du pardon. Mais alors ça prend du temps. Et nous ne devrions pas être étonnés qu'une personne qui pardonne ait pourtant besoin de temps pour reconstruire une relation. Parce que ce n'est pas la même chose. Ça nécessite une certaine délicatesse, une certaine approche de la situation, une certaine prudence. Quand vous pardonnez à quelqu'un, même qui est venu vous voir, qui vous a demandé pardon, mais dont vous savez qu'il a tellement l'habitude de retomber toujours et toujours dans les mêmes fautes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le devoir d'exercer vis-à-vis de cette personne, après lui avoir pardonné, vous avez le devoir d'exercer un amour clairvoyant. C'est-à-dire que vous allez prendre des précautions. L'amour doit être clairvoyant. On ne va pas simplement dire, bon, ben maintenant, tout est bien, c'est tout à fait comme avant, c'est pas vrai, c'est pas comme avant. Il y a quelque chose qui a été cassé quelque part et qui doit être maintenant reconstruit. Il y a des blessures ici et là. Donc on va prendre des précautions. Et ceci est dans les Écritures. J'en veux pour preuve les tours pendables que le roi Saül a joués à David, alors qu'il se préparait pendant une bonne dizaine d'années à la royauté. Et comment, par moments, si David n'avait pas appris de Dieu à avoir un amour clairvoyant, il serait mort. Parce que, à certains moments, dans 1 Samuel 24 à 26, quand il prouve à Saül qu'il l'aime et qu'il n'est pas question un seul instant de devancer l'heure de Dieu pour venir à la royauté en le tuant, ce qu'il pouvait faire, il était à portée de sa main. Il avait même entre les mains des objets, n'est-ce pas, appartenant à Saül. Et quand Saül lui dit, mais tu peux venir vers moi, tu es tellement gentil. Que fait David? Est-ce qu'il court dans les bras de Saül? Il lui pardonne. Mais en même temps, il lui dit, écoute, tu vas envoyer quelqu'un chercher tes objets. Ça, c'est un amour clairvoyant. Un amour prudent. Qui veut vérifier si le terrain est solide. Alors c'est important aussi dans notre vie conjugale. Il y a le pardon. Et ensuite, il y a tout un travail dont nous avons parlé cette semaine, qui est un travail de reconstruction. Ensemble. Aussi dans un nouveau dialogue dont nous parlerons demain matin. Alors il y a le problème des pensées. Et les pensées s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation. Vous réglez un problème avec votre conjoint. Vous demandez pardon, vous pardonnez. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on vit si près l'un de l'autre? Ben, le problème de nos pensées n'est pas réglé. Chacun va de son côté, le mari au travail, la femme de son côté à ses activités, on se revoit le soir. Parfois il suffit, vous le savez, hein, de se revoir pour que tout le passé ressorte. Et c'est comme ça dans nos relations d'église. Toutes nos pensées sont à nouveau reprises par le problème. On a fait l'acte, on l'a fait de tout son cœur. Et pourtant, ça recommence. Et vous savez que certains croyants ont énormément de peine à pardonner parce que chaque fois qu'ils ont fait l'acte, ensuite, ils ont des problèmes au niveau des pensées. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se culpabilisent. Et puis ils vont redemander pardon. Ou ils vont dire à nouveau à la personne, mais je te pardonne, alors la personne ne comprend plus. Ou bien disent, mais Seigneur, ta parole n'est pas juste, ça marche pas, tu vois, ça marche pas. J'ai réglé le problème et pourtant j'ai l'impression que rien n'est réglé. C'est dans mes pensées, c'est là toujours. Quand j'étais enfant, étant d'origine protestante, nous étions membres d'une église protestante réformée à la frontière franco-luxembourgeoise. Et nous allions donc aux rencontres et aux cultes dans un temple avec son clocher et il y avait la cloche qui sonnait au début à la fin du culte. Et je me souviens de ce que cela avait comme effet sur l'enfant que j'étais. J'aimais entendre ce carillon de cloche. Je me souviens même des hommes qui me prenaient parfois dans leurs bras pour me hisser à la bonne hauteur pour que je tire avec eux. Mais il y a quelque chose qui était particulier, que j'aimais en particulier. C'était quand la personne qui sonnait lâchait la corde. Et qu'on entendait peu à peu le son de la cloche s'espacer, s'atténuer pour mourir lentement, pendant d'ailleurs que la corde continuait à monter, à descendre quelque peu. Ça, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Mais cette image peut nous permettre de comprendre comment, dans un couple, comme au-delà d'un couple, nous pouvons régler ce problème. Quand je pardonne à l'autre, alors que j'ai vraiment souffert, et alors que les problèmes ont grandi, se sont développés, comme nous l'avons dit, que la situation est devenue intenable. Eh bien, au moment où je pardonne, je lâche la corde de la rancune, de la haine, du ressentiment, de tout ce qui a mal marché, n'est-ce pas ? Je lâche tout ça. Je pardonne, je lâche. Est-ce que ça veut dire pour autant que la cloche va cesser aussitôt? Mais non. La cloche va continuer à sonner. Mais l'essentiel, c'est que j'ai lâché la corde. Et ce que je peux dire au Seigneur, c'est ceci, Seigneur, tu sais, tu es témoin. J'ai lâché la corde. Mais Seigneur, je le sais aussi, je suis réaliste. Ça n'a pas réglé totalement le problème de la cloche. Ça cloche encore au niveau de mes pensées, au niveau de mes sentiments. Mais je ne veux pas me culpabiliser. Seigneur, simplement, je te remets le domaine de mes pensées entre tes mains. Et je te demande de t'en occuper. Toi, fais-le. Et nous voyons, et ça c'est intéressant, progressivement, avec le temps, les sons de cloche vont s'espacer et s'atténuer de plus en plus. Et ça prendra du temps. Et une des raisons pour lesquelles il est important de vite régler nos problèmes conjugaux, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, la durée pendant laquelle la cloche va continuer à sonner est d'autant plus longue que nous avons sonné pendant longtemps, tenu la corde pendant longtemps dans le domaine de la rancune. Plus vous vous amusez avec la corde de la rancune pendant une année, deux années, trois années, plus les blessures deviennent profondes, et plus quand vous lâchez, la vigueur que vous avez donnée à la cloche fait qu'elle va traîner en longueur. et la guérison donc va prendre d'autant plus de temps. Mais il y a encore un problème. Le problème, c'est précisément l'oubli. Nous avons parlé des sentiments, des pensées, mais nous ne pouvons pas oublier. Moi, en cet instant, je suis capable de ne pas oublier des événements qui se sont passés dans mon enfance. Je ne les oublie pas. Et ils resteront dans ma mémoire tant que ma mémoire ne sera pas défaillante sur ce plan, que je le veuille ou non. Et je ne vais pas essayer de me convaincre que je dois oublier en serrant les dents, en disant il faut qu'il se passe quelque chose là-dedans, que les cellules bougent à quelque part pour que ça change. Ça ne sert à rien, vous le savez. Et c'est là que nous avons des problèmes aussi avec la signification du pardon. Parce qu'il est ici et là dans les Écritures, et dans l'Ancien Testament en particulier, des textes dans Michée, dans la conclusion de Michée, mais dans d'autres passages, des textes dans lesquels il est dit que Dieu oublie. Alors nous disons, ben, Seigneur, je veux te plaire, je veux oublier. J'aimerais ici faire remarquer, tout d'abord, que quand il est dit dans les Écritures que Dieu se souvient, Dieu se souvint de Sarah et elle devint enceinte, etc. Combien de passages Dieu se souvient. Quand il est dit Dieu se souvient, que Dieu se souvient, en hébreu cela veut dire exactement Dieu garde en dépôt. C'est-à-dire que rien ne se perd dans la mémoire de Dieu. Dieu garde en dépôt. Nous pouvons imaginer un dépôt. Alors quand Dieu ne se souvient plus, cela veut dire qu'il cesse de garder en dépôt. Et j'aimerais, à partir de là, tirer quelques remarques importantes, notamment celle-ci. Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé maintenant l'expression « Dieu oublie », mais « Dieu ne se souvient plus ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des textes, un certain nombre, dans lesquels il est dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Dieu ne se souvient plus. Et quand on parle de l'oubli de Dieu, il faut toujours le mettre à côté du non-souvenir de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans notre analyse du terme oublier, oublier c'est un acte, je dirais, passif. Vous n'y êtes pour rien quand vous oubliez. Tu te souviens du nom d'un tel ? Non, j'ai oublié. Vous n'y êtes pour rien. Défaillance de la mémoire, usure du temps, etc., n'est-ce pas ? Par contre, quand vous dites « je ne me souviens plus », il y a beaucoup plus facilement que d'en oublier une connotation active. Je décide de ne plus me souvenir. Je prends la décision. C'est une attitude volontaire. Dieu décide de ne plus se rappeler les fautes que j'ai commises à son égard. Cela veut dire que l'oubli, en réalité, c'est ça. L'oubli, c'est un acte volontaire. Je refuse désormais de prendre en compte la faute qui a été commise. Je cesse de la garder en dépôt. C'est ça le pardon. Je cesse de garder en dépôt. Ça veut dire que il y a du ménage à faire. Parce que trop souvent, nous pardonnons, mais nous gardons des preuves. Nous gardons des preuves parce que nous éprouvons le besoin de prendre des précautions. Et ça a tellement marché entre elle et moi. Elle m'a envoyé de ses lettres. Il arrivait un moment où le dialogue n'était plus possible, alors elle s'est mise à m'envoyer des lettres. Alors, dans ces lettres, elle me dit des trucs. Si je montrais ça, je ne sais pas à qui, mais il se dirait que c'est pas possible. Donc, je lui pardonne. Et je garde les lettres. Je les garde en dépôt. Je lui pardonne, mais je me souviens. Et si jamais elle recommençait, je l'attends au coin du buisson et je vais lui ressortir ses papiers. Hein. Puis je vais les montrer à quelqu'un, n'est-ce pas? Il y a du nettoyage à faire. Si vraiment nous pardonnons, nous devons être conséquents et dire « je ne me souviens plus ». Après que nous y pensions, mais l'essentiel c'est que l'amertume n'existe plus. L'essentiel c'est que dans le monde de nos pensées, la blessure soit guérie, qu'il n'y ait pas de pu, que le sang de Jésus soit passé par là, que Dieu ait mis tout son parfum, tout son baume de Galade, comme disent les Écritures. Ma conclusion à cette avant-dernière étude sera simplement pour souligner, et là je me reconnais, que notre vrai problème dans le couple, dans la vie familiale, dans toute forme de vie relationnelle, dans la vie de l'Église, notre vrai problème, mon vrai problème, c'est l'orgueil. Nous sommes terriblement orgueilleux. C'est notre moi. C'est l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est le refus de faire passer notre moi par la croix. D'être le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour pouvoir porter beaucoup de fruits. C'est là certainement le domaine le plus crucial dans nos relations les uns avec les autres. Notre hippopotame, moi, qui nous fait toujours revoir les fautes des autres et de l'autre, et qui oblitère, qui nous empêche de voir nos propres fautes. Et c'est pour cela que l'an dernier j'ai utilisé de ballon dans un autre domaine concernant le réveil de Naomi. Mais ça, ben c'est tout simplement un couple. Maurice et Tina, mettez vos prénoms. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, c'est peut-être tel ou tel membre de l'Église, tel voisin, tel membre de la famille. Voyez, ça c'est le problème d'un couple dans lequel aucun des deux n'est rempli du Seigneur. L'apôtre Paul aurait pu utiliser cette image parce que le vocabulaire qu'il utilise pour évoquer les problèmes de l'église de Corinthe, c'est un vocabulaire qui tourne précisément autour de cette image. Il leur dit « vous êtes remplis de vide. Vous êtes remplis de vous-même. Gaz carbonique. Ce qui tue. C'est tout. Voilà le type de relation que vous avez les uns avec les autres à cause de ça. Vous avez vu la qualité de relation de ce couple? Si la qualité de relation est proportionnelle à l'étendue de la surface de contact, vous trouvez que leur relation est excellente, n'est-ce pas? Au point même que chaque fois qu'ils se touchent, ils se repoussent. C'est ça le couple. Quand le moi est sur le trône, quand nous restons mordicus sur nos positions, disant « j'ai raison », voilà ce qui se passe. Et nous sommes en permanence en train de repousser l'autre, on se repousse mutuellement. Et comme on a tendance à l'hypocrisie, bien je dirais même on s'enferme dans sa bulle. On se cache, on se crée son personnage. Mais vous savez, et ça je l'ai expliqué l'an dernier longuement, vous savez que la contradiction entre le personnage et la personne crée dans notre vie des tensions terribles. Et vous savez combien ces ballons sont tendus. Parce qu'on a peur que les autres voient la faille, hein, qu'ils réussissent à se glisser sous le personnage, hein, au défaut de l'armure, pour voir la vraie personne. Ça, on ne veut pas. Alors on est obligé de se composer donc un personnage et d'être continuellement sur ses gardes, d'être extrêmement vigilant, suivant l'endroit dans lequel on est. Et ce n'est pas pour rien que j'ai lu des passages qui traitent de la colère, notamment dans cette mouche qui tombe dans l'huile du parfumeur, juste après il est question de la colère. Dans Éphésiens 4, il est dit « Ou si vous vous irritez, si vous vous mettez en colère, surtout que la nuit ne passe pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi ? Mais précisément parce que, vous savez, la colère, c'est un résultat de l'orgueil. C'est notre orgueil qui nous pousse généralement à la colère. Il en est peu des colères saintes, mes bien-aimés. Très peu.
Et le résultat ? Eh bien, nous allons aller jusqu'au bout de notre démonstration. Hein. Voyez ?
Dans le couple, quand les relations se dégradent, on devient susceptible. On se tend. On renvoie à l'autre où je pense.
Et le résultat ?
Il y en a qui m'en veulent maintenant. J'ai vu un regard se tourner vers moi. Mais vous comprenez. Maintenant, j'aimerais vous poser une question dans cette conclusion. Où est le problème ? Est-ce qu'il est là ?
Non, il est là.
Vous savez, le problème dans nos vies de couple, c'est que quand nous allons voir quelqu'un tout seul pour lui dire « j'ai des problèmes dans ma vie de couple », nous ajoutons généralement « mais vous savez, c'est pas de ma faute, c'est lui ». Puis après, l'autre vient vous voir dans le couple, tout seul de son côté. Il dit « vous savez, on a des problèmes dans le problème, des problèmes dans le couple, mais c'est pas de ma faute, c'est elle ». C'est toujours l'autre. Or, dans ce couple, le problème a été réglé par le fait que l'un des deux a été vidé à quelque part. Il est regrettable qu'il ait été vidé comme ça. C'est pas comme ça que le Seigneur fait. La colère fait ça. Destructrice. Mais dans le fond, dans un couple, si l'un des deux vit dans le Seigneur, si le Seigneur est sur le trône, s'il a à cœur de vivre selon 1 Pierre chapitre 2 et 3, en s'appuyant sur l'exemple de Jésus qui injuriait, ne rendait point l'injure, ne faisait point de menaces, qui a été tondu, mais alors à fond, comme un mouton, et écorché, et qui s'est tenu dans le silence. 1 Pierre chapitre 2, qui introduit 1 Pierre 3, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, de manière à ce que s'ils n'obéissent pas à la parole, ils soient touchés, gagnés, sans parole par votre conduite. » C'est-à-dire que l'arrière-plan de la conduite de cette femme qui vit dans un foyer difficile, c'est la conduite du Seigneur Jésus. Et chaque fois que je suis tenté par tous ces mécanismes dont nous avons parlé, le Seigneur me rappelle, ton problème, Maurice, c'est l'orgueil. N'essaye pas de mettre trop de choses sur le compte de ta femme. Si toi, tu règles tes problèmes, des problèmes de ta femme, je suis capable de m'en occuper. Mais si toi, tu règles tes problèmes, si toi, tu mets ta vie sur l'autel, si toi, tu apprends à dépendre de moi, à vivre près de moi, de manière à ce que le Saint-Esprit règne dans ta vie, si la croix passe dans ton cœur, alors c'est déjà le début d'une solution de salut extraordinaire pour votre vie de couple. L'autre pourra toujours taper. Il n'y aura pas de résistance, puisque le ballon n'est pas gonflé. Vous savez que Jésus a introduit en venant parmi les hommes une dimension de caractère absolument révolutionnaire dans l'Empire gréco-romain et dans la philosophie grecque en particulier à cette époque. Une des dominantes d'un caractère valable, c'était ce qu'on appelait la mégalopsychia, la grandeur d'âme. Oh, la grandeur d'âme qui se traduisait par une aide efficace, un amour pour les malheureux, on était prêt à faire des sacrifices, c'est vrai. Mais cette grandeur d'âme voulait qu'on ne tolère un seul instant que l'on vous marche sur les pieds. On ne tolère pas l'insulte, La dignité ne doit pas être bafouée. Et ça s'est traduit, vous le savez, par un certain nombre d'œuvres littéraires, de grands auteurs qui ont pénétré notre mentalité française. Et quand vous voyez les bains de sang de certaines œuvres et les duels à l'épée sur le champ, et pensez à Corneille, Racine, Shakespeare, etc. Vous comprenez la grandeur d'âme. Puis Jésus arrive. Et il dit, mes amis, vous vous trompez. La grandeur d'âme est à la queue. Elle s'inscrit en réalité dans le domaine du péché. Elle est alimentée par l'orgueil. Moi, je suis venu sur la terre au milieu des hommes avec la longueur d'âme, la longanimité traduite par patience. Une âme longue qui persévère et qui persévère encore dans le support de l'injustice, du péché de l'autre, de ces situations totalement anormales, et qui vient à la croix, qui riposte à la haine par l'amour. Ça, c'est ce que nous apprenons. C'est le côté révolutionnaire du christianisme. C'est ça ce qui va toucher ce qui nous entoure à l'extérieur. Notre monde est rempli d'autres pensées. Ah, mais si dans nos vies de couple, si dans nos vies conjugales, familiales, ecclésiales, la longueur d'âme supplante la grandeur d'âme, et que nous pouvons apprendre le vrai pardon, la vraie réconciliation, à mettre nos vies sous la croix, alors le monde sera touché à son tour, et l'Église de Jésus-Christ sera édifiée, et notre Dieu sera glorifié. Nous voulons prier. Père, là aussi, je te remercie de ne pas être un politicien ou un simple discoureur, allant dans le sens des grandes vérités de ce monde. Merci de ce que nous ayons un message révolutionnaire à proclamer, et au-delà de sa proclamation, nous avons à le vivre. Merci de ce que, en ton Fils Jésus-Christ, il y ait toujours une solution à nos dissensions, à nos conflits, à nos querelles, à nos haines, à nos rancunes, à nos amertumes, à tous nos antagonismes dans lesquels l'orgueil occupe tant de place. Seigneur, merci. Merci pour la possibilité de venir à la croix, de pouvoir te dire tout, te raconter nos voies, reconnaître et appeler le péché, péché, le confesser, le déposer. Merci de la possibilité d'aller vers l'autre pour demander pardon, d'aller aussi vers l'autre pour lui donner notre pardon, pour le mettre en quelque sorte simplement entre tes mains pour que toi tu t'occupes de lui. Seigneur, nous te bénissons pour ce message tellement révolutionnaire qui nous a évité dans notre vie tant de catastrophes dans le passé, qui a permis tant de retournements de situation, tant de restauration, tant de reconstruction. Seigneur, tu nous connais les uns et les autres, tu connais nos situations difficiles parfois, nos situations de drame personnel, dans le domaine conjugal aussi. Donne-nous, dans ta grâce, d'avoir à cœur de pratiquer ce message et de ne pas tarder à le faire. Je te prie, Seigneur, si tu nous saisis dans notre cœur, dans un ou l'autre des domaines que nous avons évoqués, donne-nous de ne pas tarder à mettre cela en œuvre sous la conduite de ton esprit. Seigneur, garde-nous de ces intentions qui ne se traduisent jamais en action. Merci, merci, parce que tu mets en nous le vouloir et le faire. Nous savons que cette prière est dans ta volonté, que tu veux l'exaucer pour chacun d'entre nous, et tu veux que nous repartions autrement que nous sommes arrivés. Merci Seigneur. Nous te glorifions, nous t'adorons et nous proclamons ta victoire sur l'ennemi de nos cœurs, celui qui nous a aveuglés, mais auquel nous voulons échapper parce que nous appartenons à un autre royaume, à un royaume de lumière, de justice, de vérité, de sainteté et d'amour. Nous avons été transférés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous t'en bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.